Camarades freelance, salut à vous et à vos oreilles frétillantes de curiosité. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast de La Cohorte. Aujourd'hui, je suis avec Gwen et on va parler de la façon dont elle structure ses premiers contacts avec ses prospects. C'est bien ce qu'on s'était dit, Gwen ?
Oui, c'est bien ça.
Avant de commencer, deux mots de contexte. Je sais que vous êtes nombreux à appréhender les premiers rendez-vous avec vos prospects et c'est normal. Parce que c'est super flippant d'échanger pour la première fois avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'on voudrait transformer en client. On a tendance à se mettre une sacrée pression, surtout quand on a besoin de nouvelles missions pour faire tourner sa boîte. Résultat, on est encore moins à l'aise et nos interlocuteurs le ressentent. Mes premières années en freelance, je me rappelle que j'étais hyper crispée pendant ces rendez-vous et j'ai raté pas mal de ventes à cause de ça. Gwen est directrice artistique freelance depuis 3 ans et demi. Elle a longtemps redouté les premiers échanges avec ses prospects. Et puis au fur et à mesure, elle s'est créée une méthode qui lui réussit bien pour 1. Se sentir plus confiante lors de ses conversations et 2. Convertir plus de prospects en clients. Gwen, est-ce que tu es prête pour nous raconter tout ça ?
Je suis prête.
Alors c'est parti. On commence par une question qui n'a rien à voir avec la choucroute pour mettre tout le monde à l'aise. Gwen, tu dis sur ton site que tu aimes les sciences qui étudient le cosmos. Qu'est-ce que tu as appris de fou récemment sur le cosmos ?
C'est pas vraiment quelque chose que j'ai appris, mais c'est plutôt une petite expérience que j'ai eu l'occasion de faire dans ma cuisine il y a pas si longtemps que ça. Il y avait une éclipse partielle de soleil qui se déroulait aux alentours de 12h-13h et qui était particulièrement visible là où j'étais en Alsace. Et donc du coup, en faisant mon déjeuner, j'ai eu l'occasion de me faire une petite, j'avais pas de lunettes, de me faire une petite boîte de visionnage. Juste avec un carton de pizza qui traînait et une feuille de papier avec un trou et de regarder en direct une éclipse de soleil en faisant mon déjeuner. C'était plutôt sympa.
Ok, bah ouais, en effet. Et puis bravo pour le bricolage. Bon, c'est pas vraiment pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je l'ai dit, je voudrais qu'on discute ensemble de la façon dont tu structures tes premiers contacts avec tes prospects. Et tu m'as dit quand on préparait l'interview que avant, tu avais peur du téléphone et que c'était même compliqué pour toi de prendre rendez-vous avec un médecin. C'est vrai?
Ouais, c'est vrai. Ça fait un peu bizarre d'y repenser maintenant, 2 ans après, où du coup c'est plus du tout un problème, mais c'est vrai que j'avais vraiment une peur du téléphone. Alors j'étais pas vraiment phobique, mais ça me prenait du temps à chaque fois que je devais prendre un rendez-vous ou appeler quelqu'un. C'était vraiment quelque chose qui n'était pas facile pour moi et qui me mettait vraiment très mal à l'aise.
Et alors, à cette époque, comment tu faisais pour nouer tes premiers contacts avec tes prospects ?
Bah, du coup, j'avais pas beaucoup de premiers contacts avec des prospects, justement. C'était un petit peu le problème. J'essayais de mettre en place quelques stratégies pour que on vienne me chercher. C'était vraiment ça mon but, quoi. C'était de pas avoir à aller chercher les gens. Donc, du coup, j'avais fait un profil sur Malt. J'avais fait des profils, en fait, sur à peu près toutes les plateformes de freelance qu'on pouvait trouver. Et j'espérais qu'on vienne me chercher, quoi. C'était un petit peu ça, ma stratégie.
Donc, j'imagine qu'il y a de temps en temps, il y a des prospects qui venaient te chercher. Vous échangiez par écrit ?
Ouais, c'est ça. J'essayais un maximum d'éviter le téléphone. J'étais vraiment pas à l'aise avec ça. Donc, j'essayais un maximum de garder les choses soit par mail ou par messagerie.
Et donc, à quel moment tu t'es dit, c'est bien joli tout ça, mais il faut que ça change ?
Alors, il y a eu un événement marquant, c'était un prospect que j'ai perdu tout simplement en ayant peur d'appeler. Là, c'est quelqu'un de mon réseau qui m'avait chaudement recommandé à quelqu'un pour refaire, il me semble que c'était faire des menus pour son restaurant. Et donc, il fallait que je l'appelle pour discuter de ça avec lui. Et ben, j'ai hésité. Je me rappelle d'avoir regardé mon téléphone avec le numéro tapé avant de, il n'y avait plus qu'à appuyer sur appeler et je le faisais pas, quoi. Et je pense que ça a duré 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et bon, au bout de 3 mois, je me suis dit, allez, j'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai appelé. Et bien évidemment, le prospect m'a dit, bah oui, je suis désolée, mais j'ai quelqu'un d'autre, quoi. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a appelé et du coup, voilà, quoi, c'est déjà fait.
Donc ça a provoqué un déclic chez toi?
Bah oui, clairement, je me suis dit, c'est quand même vraiment, vraiment trop con de passer à côté d'un job juste parce que t'as peur du téléphone, alors que, soyons clairs, il va rien se passer, quoi. Personne va t'agresser à travers un téléphone.
Donc, ton objectif principal quand t'as commencé à mettre en place ces rendez-vous téléphoniques, à les introduire dans tes conversations avec tes prospects, c'était avant tout de collecter des infos, les infos dont tu avais besoin pour préparer tes devis?
Oui, c'est ça, parce que au début, parce que les gens qui me contactaient, c'était principalement, enfin toujours maintenant, c'est principalement soit à travers un formulaire de contact sur mon site, soit à travers Malt. Et donc, les gens sont rarement précis dans leurs demandes. Et c'est normal parce qu'ils ne savent pas exactement ce dont ils ont besoin. Ils ont une idée assez vague de ce qu'il leur faut, mais comme ce n'est pas leur métier, c'est très vague. Donc, ce n'est vraiment jamais suffisant, les informations qu'on a à travers un message de prospect pour faire un devis. Si on n'accroche pas immédiatement la personne en lui demandant un rendez-vous téléphonique, il faut faire plusieurs allers-retours de messages pour avoir les bonnes infos pour envoyer le devis. Et les gens ne répondent pas, ils mettent du temps. Et donc, tout de suite, ça étale en longueur. Enfin, c'est autant d'étapes, on va dire, qui donnent l'occasion à la personne de ghoster, quoi, d'arrêter de répondre. Donc, c'est vrai que ça permet d'engager une conversation beaucoup plus rapidement et d'accélérer le process.
Et ça t'est arrivé de pondre des devis, des propositions sur la base d'informations incomplètes ?
Ah oui, complètement. Au début, j'essayais un petit peu de faire du travail de devinette, quoi. Et donc forcément, on est toujours un petit peu à côté.
Et je t'ai pas demandé, en préparant l'interview, mais t'es téléphone ou visio ?
Un peu les deux. J'aime bien visio parce que, enfin, je préfère la visio au téléphone parce que, t'as un peu plus d'informations. Je pense quand tu vois les gens, tu vois un peu plus facilement comment ils réagissent. Donc, t'as un peu plus d'infos.
Imaginons que je suis une de tes prospects. On doit se retrouver pour un appel découvert dans 5 minutes. Est-ce que tu as une routine pour te mettre dans de bonnes conditions ? Est-ce que tu te répètes un mantra ?
Je me répète pas forcément un mantra, mais par contre, j'ai un peu ma feuille de route, donc je sais où je vais aller. C'est assez rapide. Enfin, je revois, on va dire, les informations que m'ont donné le prospect avant, parce que j'ai toujours quelques informations sur ce que veut le prospect. J'ai un petit questionnaire, donc j'ai 2-3 informations. J'ai une fiche de route que j'ai sous les yeux que je dois remplir au fur et à mesure pour être sûr de pas oublier de poser certaines questions et évidemment je vais toujours regarder avant le site internet ou enfin voilà le profil, toutes les infos que je peux avoir sous la main sur le prospect pour savoir un petit peu qui j'ai affaire et pas tomber des nues quand la personne me parle de son entreprise, quoi. Pouvoir poser des questions aussi qui sont pertinentes et gagner du temps.
On imagine toujours que je suis ton prospect, ça y est, la conversation commence. Comment tu démarres l'échange lors de cet appel découverte ?
Du coup, je commence par t'expliquer un petit peu qui je suis, ce que je fais, depuis combien de temps je le fais, tout ça, t'expliquer comment je peux résoudre ton problème. Ensuite, je t'explique le déroulé de l'appel découverte, donc c'est-à-dire que ça va durer à peu près 30 minutes, que je vais te présenter un petit peu ce que je peux faire pour toi. Ensuite, que je vais te demander de me présenter ton entreprise, ton projet, ce dont tu as besoin, et que ensuite, je vais te poser des questions pour être sûr d'avoir bien compris ta demande et avoir toutes les informations qu'il me faut pour faire un devis. Et ensuite, à la fin, tu pourras aussi toi me poser tes questions et on pourra discuter ensemble à la fois de ton budget et de est-ce que tu penses que ça pourrait être un bon fit pour toi et donc du coup est-ce que tu voudrais un devis pour cette base-là.
Ok, alors là tu nous as fait tout le script, on va peut-être revenir là-dessus. On fait une petite pause pour laisser le temps à mon invité de reprendre son souffle. Je vais aussi en profiter pour vous présenter la cohorte. La cohorte, c'est un podcast, une newsletter et 3 programmes d'accompagnement pour vous aider à avoir un flux régulier de missions et kiffer encore plus vos vides solopreneurs. Et moi, je suis Marine, une rédactrice freelance, devenue mentor et formatrice en stratégie business. Pour en savoir plus sur tout ça, filez vite sur le site de la cohorte, lacohorte.fr. Allez, on y retourne. Gwen, on vient de voir, tu nous as expliqué les grandes étapes de tes appels découvertes. C'est quoi le moment clé, le moment le plus important pour toi ?
Je dirais que c'est le moment où j'explique un peu tout mon process de travail. Le moment où j'explique comment ma prestation va se dérouler pour le client, pour le prospect. Je pense que c'est là où c'est le plus important parce que souvent les gens ont pas vraiment conscience de ce dont ils ont besoin ou de comment ça va se passer. Donc à la fois ça les rassure parce que je connais la majorité des objections que les gens vont avoir. Donc je vais au devant de ça en leur expliquant mon processus et pourquoi est-ce que du coup ces objections ne sont pas fondées. Et en même temps, ça leur permet de se projeter dans la future collaboration, donc de projeter, on va dire, leur entreprise à travers ce processus, dans le résultat qu'ils vont pouvoir avoir. Et en même temps, ça leur permet aussi de de comprendre le prix aussi à la fin, parce que comme j'ai des prestations qui ne sont pas forcément peu chères, en comprenant le processus et toutes les étapes qui vont jusqu'au résultat, ils comprennent aussi, ils comprennent mieux, on va dire, la valeur. Enfin, ça permet d'avoir une valeur perçue qui est à peu près équivalente à la valeur monétaire.
Donc ça, rappelle-moi, le moment où donc, tu expliques ta façon de bosser, ça arrive quand ?
Ça arrive juste après que les personnes m'ont expliqué leurs problèmes, en gros. Je leur demande donc de me parler de leur entreprise et de leur projet et donc de ce dont ils ont besoin. Et donc, je leur explique à partir de là comment je réponds à leurs problèmes, en fait.
Est-ce que toi, tu as travaillé sur cette présentation ? Est-ce que c'est un pitch ou tu improvises à chaque fois ?
J'ai pas un pitch vraiment défini, mais c'est toujours un petit peu les mêmes grandes lignes, on va dire.
On voit bien la dimension pédagogique de ce moment du call. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Tu as des questions-réponses souvent ?
Oui, souvent j'ai des questions-réponses, pas énormément, mais il y a souvent des questions du genre, des fois c'est des choses un petit peu plus techniques, parce que moi aussi j'ai posé des questions sur les types de livrables dont ils ont besoin, quels sont, voilà, est-ce qu'ils vont avoir besoin d'apprendre à utiliser des logiciels, est-ce qu'ils vont être propriétaires du logo, comment est-ce qu'ils peuvent l'utiliser, enfin, il y a un peu des questions là-dessus. Quelques questions des fois, mais ça du coup j'en ai de moins en moins. Parce que justement, j'ai un peu affiné mon processus sur si ça me plaît pas, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que ça, c'est vraiment un peu la bête noire des gens quand ils investissent 1 500 €, 2 000 € dans une identité visuelle, c'est d'avoir peur que ça leur plaise pas à la fin.
C'est quoi la dernière étape ? Est-ce que tu peux nous plonger un peu là-dedans, la dernière étape de tes appels découvertes ?
Du coup, la dernière étape, c'est de parler budget, parce que c'est toujours un peu le moment compliqué. Normalement, je l'avais pas au début, mais maintenant, avant mes rendez-vous découvertes, les gens doivent me dire quel est leur budget, me donner une fourchette, on va dire. Et donc, ça me donne une base de travail pour aborder le sujet du budget. Très souvent, le budget est sous-évalué, donc ça me donne c'est le moment où je vais leur expliquer que leur budget, enfin, que dans leur budget, normalement, telle ou telle chose, ça va peut-être être compliqué de le faire rentrer. Enfin, j'essaye un peu de les préparer au prix en fait qui va arriver dans le devis. Et du coup, c'est le moment où je leur demande s'ils veulent toujours un devis, s'ils veulent un devis qui soit strictement dans leur budget. À ce moment-là, que je réduise la prestation pour que ça puisse être rentré pile dans leur budget, ou s'ils veulent une proposition qui soit vraiment sur mesure par rapport à leurs besoins, peu importe si ça dépasse un peu leur budget. Donc, c'est là où je jauge un petit peu, on va dire, où est-ce qu'ils en sont.
Tu m'as dit que tu envoyais un petit mail, quoi qu'il en soit, après les calls ?
Oui, toujours un petit mail, soit pour faire un petit récap, effectivement, de ce qu'on s'est dit et dire que je vais leur envoyer la proposition sous tant de jours, soit, effectivement, juste pour leur dire que, voilà, si un jour ils changent d'avis, ils savent me trouver.
Là, on l'entend, tes appels découvertes sont hyper structurés. Est-ce que tu as toujours procédé ainsi ?
Non, pas du tout. Non, au début, c'était vraiment beaucoup plus chaotique. Je laissais un peu les prospects mener l'appel découverte, en fait. Je me disais que comme c'était eux qui venaient me chercher, c'est eux qui allaient me dire ce qu'ils voulaient. J'étais complètement passée à côté du concept de se poser en expert et de les aider, en fait, de répondre à leurs problèmes. Donc forcément, je pense que ça donnait pas une super impression.
Et qu'est-ce qui t'a fait dire « Ah, il faut que je sois un peu plus aux manettes de mes calls » Là aussi, tu as eu des déclics ou pas ?
Je pense que c'est au fur et à mesure de mes projets, en fait, avec les clients, où je me suis rendu compte, donc pas uniquement dans mes calls, mais dans les projets eux-mêmes, que quand j'attendais des clients qui me disent ce dont ils ont besoin, ça n'allait pas, en fait. C'était là où c'était compliqué et qu'ils attendaient que moi je leur donne que je leur explique comment on allait faire, en fait. Et quand j'ai compris ça, j'ai commencé à structurer effectivement mes appels découvertes autrement et justement aller au-devant de leurs objections, au-devant de ce qu'ils voulaient et à leur proposer des choses, en fait. Je pense que les clients, les prospects, ils s'attendent, c'est ça qu'ils veulent. Je pense qu'ils veulent qu'on leur dise, pour votre problème, il y a solution A, B ou C, qu'est-ce que vous voulez, quoi, mais pas qu'on leur dise, alors, comment est-ce que vous voulez que je réponde à votre problème?
En face de toi, donc, t'as des créateurs d'entreprise, des gens qui sont parfois plus expérimentés que toi. Est-ce que ils acceptent toujours de se laisser guider?
Au début, justement, c'était compliqué. Comme j'étais vraiment j'étais pas sûre de moi, en fait, et ça s'entendait. Donc, je pense que forcément, toutes les personnes un peu expérimentées, un petit peu plus vieille que moi qui était face à moi et ça les convainquait pas. Mais plus j'ai adopté justement cette construction dans mes appels découvertes et plus j'ai commencé à adopter cette position de bonjour, je suis l'experte, je connais mon travail, je vous prends par la main, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça et à la fin il va se passer ça. Bah tout de suite les gens acceptent mieux, ils se laissent prendre, enfin voilà, ils se laissent emmener, on va dire, sur le chemin et ils font confiance en fait.
Et aussi, j'imagine, en adoptant une posture plus affirmative, tu donnes à tes prospects un avant-goût de la façon dont vous allez travailler ensemble.
Oui, complètement. Et d'autant plus comme c'est une profession créative, je pense que ça rassure énormément les gens de voir que même si c'est quelque chose de créatif, il y a un procédé spécifique qui va amener à un résultat. Et de voir aussi que tu es carré, que tu es organisé, que tes devis sont clairs, que tu as un processus clair. Tout de suite, ça te pose comme étant quelqu'un de sérieux et qui sait ce qu'il fait. Quoi. Ça te donne une autre position.
Est-ce que maintenant, tu es à l'aise pendant ces conversations ou il y a encore une partie de toi qui flippe un peu ?
Il y a toujours une partie, pas qui flippe, mais qui ne sait pas trop à quoi s'attendre. Mais non, franchement, j'ai plus trop d'appréhension. Quoi. Je sais comment ça va aller, je sais que ça va rouler. Et puis voilà, je sais que si ça ne roule pas, je sais que ce ne sera pas de ma faute parce que j'ai le même process tout le temps, donc il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Donc si ça ne va pas, c'est que je suis face à quelqu'un avec qui ça ne pourra pas marcher, donc il n'y a pas de regret à avoir. Quoi.
J'ai vu que tu utilisais une application, Calendly, pour permettre à tes prospects de réserver un appel découverte. Est-ce que tu as toujours eu recours à cette application ?
Non, avant, je faisais vraiment ça à la main, c'est-à-dire que je proposais aux gens plusieurs créneaux. Et ensuite, j'attendais qu'ils me répondent. Et donc, comme des fois, je gérais plusieurs appels en même temps, j'avais plusieurs prospects en même temps. Du coup, je devais proposer plusieurs créneaux, mais qui n'étaient pas les mêmes, de me rappeler de ce que j'avais proposé. C'était un gouffre de temps et puis c'était très compliqué. Et en même temps, ça rajoutait des étapes qui me faisaient que je risquais de perdre les gens en cours de route. Donc, c'était vraiment pas optimal.
Tu m'as dit, quand on préparait l'interview, j'ai noté de te relancer là-dessus, que ça te permettait, donc le Calendly, en fait, ça met ton prospect dans une situation où il doit choisir un créneau et que du coup, ça rééquilibrait les rapports de force.
Oui, c'est ça. Quand j'ai mis en place Calendly, d'un seul coup, c'est eux qui devaient prendre rendez-vous dans mon calendrier. Donc, c'était eux qui s'adaptaient à mon calendrier, à mes disponibilités. Et c'était pas moi qui devais leur courir après pour leur proposer un rendez-vous et pour obtenir un rendez-vous avec eux. En fait, ça inverse un peu la dynamique. C'est eux qui prennent rendez-vous chez moi. Et donc, c'est eux qui se présentent. C'est un petit peu comme prendre rendez-vous chez le médecin, quoi. C'est pas ton médecin qui va te voir et qui va te dire, alors, j'ai tel rendez-vous. Est-ce que vous voulez qu'on se voit, s'il vous plaît? Je pense que ça filtre déjà les gens qui respectent pas ton temps et qui veulent que tu sois disponible tout de suite.
Pour bloquer un créneau donc dans ton agenda Calendly, tes prospects doivent répondre à des questions. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu leur demandes à ce moment-là ?
Je leur demande déjà de me pitcher un peu leur projet, de m'expliquer qui ils sont et ce qu'ils voudraient faire. Ensuite, ils peuvent sélectionner un certain nombre de prestations dont ils pourraient avoir besoin. Donc, est-ce qu'ils ont besoin d'une identité visuelle, de support de communication, tout ça. Enfin voilà, tout ce que je pourrais faire pour eux. Une fourchette de budget. Donc, je crois que j'ai mis moins de 1 000 euros, entre 1 000 et 2 500 ou plus de 2 500. Et s'ils peuvent m'envoyer leur site internet ou n'importe où je puisse voir ce qu'ils ont déjà en place comme communication.
Mais ces questions, tu pourrais les poser pendant tes calls. Pourquoi tu les poses en amont ?
Pour savoir à quoi m'en tenir avant. Parce que comme ça, je sais un peu plus en avance à qui j'ai affaire. Si j'ai quelqu'un qui me dit je veux une identité visuelle, un site internet, une application, enfin tout le... La totale est que j'ai un budget de moins de 1 000 euros, je sais qu'il va y avoir une conversation à avoir là-dessus à la fin du call. Quoi.
Ouais, du coup, tu es encore plus en confiance parce que tu es préparé.
L'idée, c'est de récolter un maximum d'informations à l'avance sur le prospect pour pouvoir avoir un rendez-vous le plus efficace possible. En fait. Ça permet juste de ne pas être pris de court, de pouvoir réfléchir aux questions qu'on va pouvoir avoir en amont pour les noter et pour être sûr de rien oublier. Et en plus, ça permet d'aller chercher aussi des informations sur le prospect et donc de montrer à ton prospect aussi que tu es renseigné. Parce que si tu es préparé, tu vas poser des questions plus pertinentes et donc du coup, la personne va se sentir plus écoutée, plus comprise et donc ça donne une meilleure impression aussi.
Quels sont les créneaux que tu réserves pour tes appels découverts dans ton planning ?
J'ai prévu des créneaux deux fois par semaine le matin. Donc je crois que c'est le mercredi matin et le vendredi matin. Donc, j'ai réservé, en fait, tous mes rendez-vous sont uniquement le matin. pour préserver tous mes après-midi en période de création. Et donc j'ai limité à deux matinées dans la même semaine pour pas avoir à faire trop de devis en même temps, quoi, parce que sinon après ça devient vite ingérable.
Oui, donc du coup tes prospects, ils doivent patienter un peu avant de t'avoir au téléphone.
Un petit peu, oui. Après c'est pas non plus mon calendrier n'est pas non plus pris d'assaut à ce point-là, mais oui, ça me permet de réguler un peu et de filtrer effectivement les gens qui veulent une identité, qui te disent par exemple qu'ils veulent une identité pour il y a deux semaines ou pour avant-hier.
Ouais, ça fait partie de ce process pour te positionner en tant qu'experte. Là aussi, ça, en termes d'image, ça ajoute quelque chose.
Bah oui, ça dit que je suis pas à la disposition de première personne qui veut quelque chose de pas cher et de rapide.
Est-ce que tu arrives à me dire combien tu as d'appels découvertes en moyenne par mois?
Bah alors, c'est assez fluctuant. Hein. Il peut y avoir des mois où il y en a zéro. Il y a des mois où il y en a 6 ou 7. Mais du coup, en moyenne, je dirais qu'il y en a 3, 4, 5.
Et du coup, est-ce que tu as un peu analysé, suivi ton taux de conversion? Est-ce que tu transformes plus de prospects en clients depuis que tu as mis en place ces appels et que tu les as structurés aussi?
Oui, ça, j'ai... Ben là, je crois que mon taux de conversion avec les appels découverts... Alors, c'est un peu différent. J'ai séparé les taux de conversion entre les gens qui viennent de mon réseau et les gens qui contactent à travers Malte ou à travers mon site, parce que c'est un peu différent. Quand c'est quelqu'un qui vient du réseau, le taux de conversion est tout de suite plus haut parce que déjà, les personnes ont souvent pas contacté plusieurs graphistes qu'ils ont mis en concurrence, par exemple. Donc, du coup, ils t'appellent juste toi parce qu'on t'a recommandé. Et donc, c'est beaucoup plus facile, on va dire. Mais donc sur les personnes qui viennent de Malte, par exemple, ou de plateformes de freelance, moi j'ai un taux de conversion qui est autour de 60% à peu près. Et avant, c'était plus 40-50, mais surtout avant, il y avait un gros taux de ghosting, quoi, de gens qui ne te répondent pas.
Oui, donc c'est quelque chose qui t'a quand même vachement apporté d'un point de vue business.
Énormément. Bah oui, parce que déjà, j'ai arrêté de faire des devis pour rien. En tout cas, j'en fais beaucoup moins pour rien. Je gagne du temps et forcément je convertis plus et aussi je facture plus haut. Mais d'ailleurs c'est une peur que j'avais au début. J'avais peur de faire fuir des gens, de pas justement de sélectionner trop et donc du coup de d'avoir moins de clients. Alors oui, effectivement, je fais moins d'appels découverts, j'ai moins de clients, j'ai moins de prospects, mais du coup je gagne du temps parce que je fais moins de devis, mais je fais des devis qui sont plus souvent acceptés et qui sont plus hauts.
Quand est-ce qu'ils sont programmés, tes prochains appels découvertes?
Alors, mon prochain appel découverte, je crois que c'est vendredi prochain.
Bon, bah écoute, on croise les doigts pour toi.
Mais merci.
Donc, on arrive à la question de la fin. Est-ce que tu peux nous parler de ton dernier kiff de freelance? Un moment où tu t'es dit, c'est quand même trop cool comme mode de vie.
Mon dernier gros kiff de freelance, je pense que c'était il y a un mois à peu près, où j'ai mes parents qui habitent très loin, qui sont venus me rendre visite pour quelques jours, et où j'ai pu assez facilement prendre 2 ou 3 après-midi dans la journée pour aller aux champignons avec eux, ou ce genre de choses, et je me suis dit, c'est quand même chouette.
Et vous avez trouvé pas mal de champignons?
Ouais, on a trouvé plein de champignons.
Ah, ça valait le coup alors?
Ah, ça valait le coup.
Terminus, on est arrivé à la fin de cette interview. Gwen, des millions de merci pour ton retour d'expérience. C'était vraiment intéressant d'aborder cette question avec toi. Tu as partagé un paquet de pépites dans cet épisode et je suis sûre que cela aidera les auditeurs et les auditrices du podcast à se sentir plus à l'aise lors de leur premier rendez-vous avec leurs prospects. De mon côté, voici ce que j'ai retenu de cet échange. Petit A, on peut progresser et parvenir à tirer le meilleur de nos premières conversations avec nos prospects, même quand on est méga flippé de base. La première étape pour avancer et se sentir en contrôle, c'est de commencer à réfléchir au scénario de ses premiers rendez-vous. Vous pouvez vous inspirer du script des appels découverts de Gwen, je pense qu'elle n'y verra pas d'inconvénient. Petit B, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il est inutile de chercher à se vendre lors de ses premières conversations avec nos prospects. Rien qu'en posant des questions pertinentes, en expliquant comment on bosse et en dirigeant la conversation, on renvoie à nos interlocuteurs une image ultra pro et rassurante. Petit C, je vous encourage à faire comme Gwen et à aborder la question du prix avant les premières conversations avec vos prospects. À l'aide d'un petit questionnaire, par exemple, que vous leur soumettez avant vos rendez-vous. Comme ça, vous ne serez pas pris au dépourvu et vous pourrez préparer vos arguments si jamais vous constatez qu'il y a une grosse différence entre le budget de vos interlocuteurs et vos tarifs. Évidemment, je brûle de savoir comment vous gérez vos premiers rendez-vous avec vos prospects. Est-ce que vous avez une méthode, comme Gwen, ou est-ce que vous préférez improviser? Racontez-moi en me laissant un message sur le répondeur de la cohorte que vous trouverez à l'adresse suivante. speakpipe.com/lacohorte speakpipe.com/lacohorte LACOHORTE. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail à hello@lacohorte.fr. Avant de couper le micro, j'ai une requête. Si vous avez aimé cet épisode et si vous en voulez d'autres, il y a un truc très simple à faire. Abonnez-vous, là, maintenant, tout de suite, au podcast dans l'application qui vous sert à l'écouter. En vous abonnant à la cohorte, vous m'aiderez à rendre le podcast plus visible et en plus, vous serez prévenu dès qu'un nouvel épisode est disponible. Allez, rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et d'ici là, surtout, restez libres.